parole du jour avec le Père Willem.
Pensez la résurrection aujourd'hui. Le péché des origines, le seul péché possible, fut l'orgueil prométhéen. Pas au sens grec où la figure de Prométhée vole à Zeus le privilège du feu, mais au sens du seul péché possible, c'est-à-dire refuser d'être créé, oui, refuser d'être créé, vouloir égaler le Créateur et s'approprier ses pouvoirs sur la vie qu'il a voulu bonne. Ce n'est pas à l'être créé de décréter la norme du bien et du mal. Le mal consiste précisément à revendiquer un pouvoir créateur sur la vie que l'homme ne saurait s'arroger, sinon, et par définition, contre son créateur. L'histoire de l'Alliance, c'est l'histoire du salut. Ce salut se résume à l'histoire des tentatives divines de la restauration du souffle de vie perdu. Il va de soi qu'il ne s'agit pas du souffle de seule vie physique, organique, mais bien du souffle de la vie voulue par le Créateur, celle dont on ne meurt pas. C'est la raison profonde pour laquelle la phase ultime de cette restauration aboutira à la vie de l'homme intégralement transfiguré par ce souffle, c'est-à-dire la résurrection. Entre le texte inaugural de la Genèse et le texte final des Évangiles, tout est finalement question de vie perdue et retrouvée. La résurrection est le point oméga de la création. Dès les premières pages de la Genèse, Dieu se manifeste comme l'auteur du souffle de vie, c'est-à-dire qu'il est présenté dans l'acte par lequel il se manifeste, et dès qu'il entre en scène, est à la fois source de vie et donateur de vie. C'est dans la lumière du surgissement de la vie que Dieu se révèle. Il est ce surgissement même en sa manifestation et se manifeste en tout ce qui est en train de faire naître à la vie jusqu'à l'homme conçu à son image. Rien n'apparaît donc à la vie et dans la vie sans porter la marque de l'auteur de la vie. Deuxième donnée, ce souffle de vie habite un être de chair. En tant que vivant, cet être de chair ne se présente pas comme un composé corps-âme selon deux principes conjoints mais séparables. Il est donné dans l'unité indissociable d'un matériau déjà habité par le souffle qui lui donne de vivre. La chair désigne ici la condition propre au sujet en tant qu'il s'éprouve vivant, et l'action produite par le souffle de vie au cœur de cette chair n'est rien d'autre que sa spiritualisation. Dans ce contexte, donc, l'être humain n'est pas un être pour la mort, il est un être pour la vie. Il n'existe que parce qu'il a reçu la vie en vue d'en développer les potentialités dans le sens de sa spiritualisation. Autre précision à prendre en compte, parce que cette vie lui a été donnée, il lui est impossible d'en revendiquer la paternité. Pareille revendication le couperait inévitablement de sa source. On se trouve donc en face d'une conception selon laquelle, en Dieu seul, il y a identité entre la vie qu'il donne et la bonté qui n'est rien d'autre que le don de la vie elle-même. C'est impossible de dissocier la bonté de la vie. Il est également impossible de dissocier le mal, le péché, de la mort. C'est bien la prétention d'inverser l'ordre de ces valeurs qui introduit la mort selon la Genèse. La mort y apparaît comme une rupture radicale dont la conséquence est la perte du souffle originel, et ce qui nous conduit à prendre en compte le dessein de Dieu, alors comment va-t-il répondre à cette situation? C'est une troisième donnée à prendre en compte. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'alliance avec l'humanité. Rappelons que tel est son dessein, se manifester à l'homme en recréant progressivement le lien rompu par le péché. Comment? Sinon, en restaurant les vertus du souffle de la vie perdue. Les épisodes successifs de l'Ancien Testament sont autant d'étapes de ce processus de restauration. Il s'y déploie toute une pédagogie sensible à cette recréation. Oui, une pédagogie divine à l'endroit de cet être qu'il s'agit d'apprivoiser peu à peu pour le rendre de plus en plus perceptible, sensible à cette création. Et la pédagogie de l'Alliance qui va de l'élection du peuple hébreu jusqu'au message des derniers prophètes de l'Ancien Testament dévoilera toujours mieux et plus fortement les vertus du souffle retrouvé. Celles-ci culminent dans les termes qui disent la toute-puissance de ce souffle. L'homme entièrement restauré, c'est l'homme ressuscité. Le Nouveau Testament ne s'inscrit pas seulement dans cette mouvance. Il accomplit ce qui était annoncé. Dieu s'incarne et le but ultime de son incarnation, c'est la résurrection. L'incarnation n'est rien d'autre que la réalisation plénière de l'Alliance. Et le fait que le Dieu créateur de vie descende dans la chair défie évidemment toute compréhension du point de vue rationnel, mais pas du point de vue de l'Alliance, dont on peut dire que la logique aboutit à cette union. Non par confusion, mais par communion, le Christ est cet être de chair pleinement restauré, par et dans le souffle de la vie divine. Et il est en même temps le Logos, le Verbe de vie, source de ce même souffle, si bien que, dans cette perspective, la résurrection apparaît comme la réalisation entière et ultime de la toute-puissance du souffle. Celui en qui souffle la pleine puissance, les pleins pouvoirs de la vie restaurée, celui-là a traversé la mort pour en abolir à jamais les effets. En lui et par lui, nous serons vivants pour toujours, c'est-à-dire promis à la résurrection. Comment appréhender la réalité phénoménale de la résurrection sinon par le biais des témoins directs? En eux seuls ont pu, oui, eux seuls ont pu en attester la véracité et la crédibilité possible de cet événement unique qui a eu lieu à un moment donné du temps de l'histoire et nécessairement lié à celle et à ceux qui ont vu et reconnu le Christ vivant après sa passion et sa mort. Mais une fois ce moment passé, et une fois les témoins directs disparus, se pose la question de la transmission du témoignage. Le seul moyen d'en garantir la véracité est alors la fidélité liée à cette transmission dans le temps. Cela tombe sous le sens commun, comme dans tous les cas où il est question de vérité historique, seuls les témoins directs font foi, et c'est sur la base de la transmission fidèle de leur témoignage que les générations suivantes peuvent avoir accès à un passé révolu, mais toujours présent dans l'aujourd'hui de nos vies.